presque juif. Un podcast d'Académ par Ruben Honigman.
Je ne me suis jamais tellement intéressé à l'antisémitisme. Si des gens n'aiment pas les juifs, tant pis pour eux. En revanche, ce qui m'intrigue, ce sont les autres. Ceux que le fait juif arrête, qui y trouvent quelque chose qui leur parle, les émeut et les bouleverse. Je vais à la rencontre de ceux que j'appelle des compagnons de route du peuple juif. Ils n'ont pas d'ascendance juive, ne cherchent pas à se convertir au judaïsme et ne sont pas non plus ce qu'on appelle communément des philosémites. Ils se tiennent sur le seuil sans jamais le franchir. Ensemble, nous essayons de refaire leur chemin à l'envers, évoquer une rencontre, une lecture, un appel, démêler les méandres d'une trajectoire à laquelle rien, en apparence, ne les prédisposait. J'interroge leur choix de vie, animé par l'intuition que s'il existe un mystère juif, c'est peut-être par la marge qu'il convient de le sonder. Bonjour Éric Marty.
Bonjour.
Quand je vous ai sollicité pour Presque Juif, vous avez été un peu réticent au début, et puis finalement vous avez consenti à faire cet entretien parce que, m'avez-vous dit, Israël m'exalte. Ça veut dire quoi ?
Alors en fait aussi parce que c'est un média juif, c'est-à-dire que en réalité j'aurais beaucoup de mal, par exemple, à participer à une émission de télévision ou à ces, comme ça, ces tables rondes sur Israël dans un média, je dirais, ordinaire, parce qu'il faut se justifier de ses positions par rapport à Israël. Une incompréhension presque ontologique de ce qu'est Israël. Et donc, la raison pour laquelle j'ai accepté surtout, c'était ça, c'était l'idée de me retrouver sans vous connaître, de me trouver dans un contexte, une ambiance où on peut parler d'Israël, je dirais entre amis. Car en dehors de cela, il me semble qu'il y a un tel mur d'incompréhension et d'ignorance et une telle lourdeur à déplacer pour pouvoir énoncer ne serait-ce que les choses, être pour moi évidentes, que là, c'est très difficile.
À l'inverse, la raison pour laquelle moi je vous ai sollicité, c'est parce que en vous lisant, en vous écoutant parfois, j'ai ressenti une profonde sensibilité de votre part et une profonde compréhension rare, y compris chez les Juifs, de qu'est-ce que c'est le nom d'Israël, qu'est-ce que c'est la judéité. Et ça m'a interpellé parce qu'il se trouve que vous n'êtes pas juif.
Non. Non, non. Non, alors moi-même, je dirais que ça m'étonne un peu. Hein. En même temps, j'ai été frappé que dans le monde, en général, il y a comme ça des individus qui sont dans un rapport de sensibilité à Israël. Mmh. Et par exemple, je pense au cas de quelqu'un qui pourtant n'est pas pris dans des discours justement comme moi sur Israël, mais Michel Foucault. Mmh. J'avais été frappé par exemple qu'il a expliqué dans une lettre à Georges Canguilhem, son grand philosophe, qu'il ait renoncé à se présenter comme un poste de professeur de philosophie à Nanterre parce que c'était Pierre Kaufmann qui était candidat contre lui, qu'il ne voulait pas se présenter contre un juif.
Alors chez vous, vous le formulez sous une phrase au début d'un livre dont on va reparler tout à l'heure, très important, qui s'appelle « Bref séjour à Jérusalem ». Vous dites « Je suis un étranger qui a un sentiment étrange d'un lien essentiel à Israël ».
Par rapport à « Bref séjour à Jérusalem », il est quand même né d'une sorte de traumatisme. Mm-hmm. Le traumatisme, c'est la seconde intifada. Mm-hmm. Et surtout, la réaction française. Mmh. Et j'étais comme éberlué que tout d'un coup, parmi mes amis, ou même dans le milieu intellectuel français, dans le milieu politique français, tout d'un coup, le nom d'Israël ne résonne plus. Mmh. Autrement que comme un pays quelconque qui faisait des choses affreuses. On était donc en octobre 2000, commencement de l'intifada, et j'étais seul dans cette maison avec ma seconde fille, Anna, qui avait à peu près un an et demi alors. Mmh. Et c'était un matinée d'octobre. Et elle était là, elle gigotait un peu, pleurait. Et tout d'un coup, je lui ai dit, je l'ai prise dans mes bras, je l'ai mise sur sa chaise de bébé. Et je lui ai dit, Anna, reste tranquille, il faut que j'écrive pour Israël. Mmh. Comme ça, comme une espèce de...
Il faut que j'écrive pour Israël.
Ouais, il faut que j'écrive pour Israël. Et à ce moment-là, j'ai écrit le texte donc, qui est paru dans Le Monde quelques jours après, donc très tôt dans le mois d'octobre 2020, sur l'angélisme des belles âmes, mmh. où je défendais, je voulais mettre en évidence cette espèce de d'incompréhension et de fausseté, surtout de facticité mmh. même, dans le message pro-palestinien. C'est ça qui me paraissait important. Mais après coup, j'étais quand même surpris de moi-même. Pourquoi j'avais, tout d'un coup, j'ai eu cette espèce de... Alors voilà, c'est l'appel. Hein. Mmh. J'ai dit à ma fille, voilà, ne bouge pas, Anna. Mmh. Il faut que j'écrive pour Israël.
Mmh. Et comme une mission, là.
Comme une sorte d'impératrice. C'est assez classique, en fait, dans les moments d'engagement.
Comme une nécessité.
Voilà, on se sent appelé par quelque chose. Il y a une sorte de nécessité et de, voilà, d'hypersensibilité. Mmh. En effet, parce que j'étais dans un état d'assez grande détresse et de besoin absolument d'écrire.
Qu'on essaie de remonter le fil de ce mystère. Vous pouvez nous dire dans quel milieu vous avez grandi ?
Alors, c'est un milieu très français. Petite bourgeoisie parisienne. Mon père est, disons, un petit ingénieur. Ma mère était femme au foyer. Alors, quand même, si on veut vraiment aller dans le fil, il y a... Parce que je crois que tous les enfants... entendent à un moment de leur enfance le mot juif mmh. et se demandent ce que c'est. Mmh. Je pense qu'il y a quelque chose dans le... Soit qu'on croise un rabbin... Enfin, j'habitais dans le 9e, donc il y avait pas mal de synagogues dans le quartier.
Vous étiez dans le 9e arrondissement ?
Oui, c'est ça. Ouais. Donc il y avait la
Victoire.
La Victoire, il y avait puis la rue Buffo.
La rue Cadet aussi.
La rue Cadet, etc. Donc, voilà, il me semble que l'enfant, à un moment, dans l'enfance, ne veut pas passer à côté... du fait juif. Et donc, il peut très bien compléter, ça passe complètement à côté, mais puis il peut être marqué par ça. Mmh. Et moi, je l'étais un petit peu, d'autant que dans ma famille, du côté maternel, on avait des cousins qui étaient des cousins un peu que Céline aurait très bien décrit. Ils habitaient la Courneuve, banlieue nord, étaient antisémites de manière assez violente, mmh. très à droite. C'était des gens très gentils par ailleurs, hein, bien sûr, comme toujours, mais habités par cette espèce d'obsession. Et dans leur discours, il y avait toujours cette idée, il y avait toujours la référence à une aïeule juive.
Ah,
voilà. Et qui s'appelait Madeleine Rothman, qui est donc mon arrière-arrière-grand-mère, née en Alsace. Alors, personne ne savait s'il était réellement juive. Mais c'était Rothman avec deux N. Enfin bon, il y a tout un tas d'éléments qui pouvaient, en tout cas mmh. Créer une sorte de suspicion. Donc moi, j'entendais, j'étais très, très enfant, j'entendais à la fois les discours, disons, anti-juifs en tout cas, pas très sympathiques. Et puis revenait aussi cette figure de Madeleine Rothman.
Qui hantait un peu les discours anti-juifs de vos cousins.
C'est ça, exactement, voilà. Oui. Donc c'est assez caricatural et assez stéréotypé comme situation, mais... En tout cas, je ne pouvais pas ne pas être sensibilisé par rapport à ça.
Ça vous troublait, ça ?
Oui, c'était un peu... Franchement, c'est on crée des romans familiaux. On se crée des généalogies. En France, on ne peut pas ne pas se créer des généalogies, disons, marginales par rapport à sa généalogie évidente. Et en fait, peut-être, je dirais que la deuxième expérience de rencontre avec le monde juif, ça a été par la politique. Mmh. Parce qu'à 15 ans... Je me suis engagé dans un groupe trotskiste qui s'appelle Lutte ouvrière, qui était un Lutte ouvrière un peu différent de celui d'aujourd'hui, parce que tout a changé, c'était un Lutte ouvrière beaucoup plus, c'était dans les années 70-71, donc dans la postérité immédiate de 68, et avec une incroyable effervescence politique, militante, intellectuelle. Et vraiment, dans ce groupe trotskiste, j'ai rencontré les gens les plus intelligents de ma vie. Alors qu'aujourd'hui, il me semble que, hélas, le gauchisme ne brille pas par son intelligence. Mm-hmm. J'ai eu un sentiment vraiment de vivre... J'avais 15 ans, donc j'étais peut-être aussi dans une position d'exaltation militante, d'admiration. Et alors le fait quand même que... le fait que Trotsky était juif, évidemment, mais pas seulement. Le fait que beaucoup de militants étaient juifs, militants de lutte ouvrière étaient juifs. Le fondateur de lutte ouvrière, dont le pseudonyme était Barta, était juif, mm-hmm. venu de Roumanie. Mm-hmm. Il y avait toute cette mythologie de cet homme. Mm.
Donc il y avait du signifiant juif se promenait là.
C'est ça. Et donc... Et donc, ce groupe couturière dans lequel j'étais portait le signifiant juif. Parce que Trotsky, au moins, à partir du moment où il est exilé du RSS par Staline, redevient profondément juif.
Ah oui.
Par cette position d'exil, mm-hmm. par cette position de dissidence, mm-hmm. et par cette position d'être à la fois héritier d'une histoire... mais n'ayant pas les moyens, en quelque sorte, de faire l'histoire, comme l'ont été les Juifs pendant des siècles et des siècles.
Il est en même temps au centre et à la marge.
Voilà, c'est ça. Héritier d'une grande histoire, mais dénué d'histoire. Et le nom de Trotsky, Bronstein, enfin son intellectualité, par opposition à la brutalité russe de Staline, Cette raffinement intellectuel, cette solitude, ce rapport à la littérature, tout cela crée une atmosphère, disons, où en effet la figure juive était une figure, disons, qui était aussi portée par Trotsky dans ma mythologie et dans celle de beaucoup de mes camarades militants de l'époque. Et donc, il y avait vraiment à ce moment-là, on pourrait dire qu'il y avait une forme d'idéalisation de Trotsky. Comme figure du paria, du persécuté. Il y a une biographie célèbre de Trotsky par Isaac Deutscher qui s'appelle Le prophète exilé. Enfin, en tout cas, il est l'un des rares à pressentir la Shoah ou en tout cas une menace d'extermination par rapport aux Juifs. Mmh. Et lui qui, jusqu'alors, s'est toujours dissocié de ses origines pour des raisons politiques. Qui a joué un peu le jeu de celui qui effaçait un peu sa judaïté. À la fin de ce moment où ça tourne très très mal, quand même, il sent quelque chose.
Ah oui.
Et il sent qu'il y a une singularité dans cette guerre mondiale, que par ailleurs, il analyse comme une guerre entre impérialismes, et donc dans lequel il dit, voilà, ce sont deux impérialismes qui se bagarrent.
Grille de lecture, trotskiste.
La classe ouvrière n'a rien à voir avec tout cela. Bon, les intérêts de la classe ouvrière sont étrangers à ce conflit.
Mais il y a quand même une singularité juive qui émerge.
Exactement. Et donc, ça m'avait beaucoup frappé. C'est-à-dire, ce que j'ai appris du trotskisme, c'est un rapport intense à la vérité contre les staliniens, qui incarnaient précisément le mensonge, la falsification, l'idéologie, au sens le plus grossier du terme, alors que le trotskisme aspirait à des analyses dialectiques très fines et très, 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 très cérébrales, très abstraites. Et je dirais, justement, c'est ça qui est frappant, c'est quand il y a la seconde intifada et que le discours pro-palestinien a commencé à développer, j'ai aussitôt reconnu toute la rhétorique stalinienne que je combattais à l'époque où j'étais militant trotskiste. Mm. C'est-à-dire j'ai retrouvé absolument tous les schémas, y compris grammaticaux, lexicaux, enfin toute l'espèce de sophisme stalinien dans les discours. Et par exemple, donc on était un groupe trotskiste assez qui voulait se distinguer du gauchisme ordinaire, mm-hmm. et donc qui pour cela critiquait beaucoup le tiers-mondisme comme une déformation, comme une défiguration du marxisme. Mm. Et en effet, par exemple, par rapport aux autres trotskistes, qui adoraient Che Guevara, Cuba, le Vietnam, nous, on était dans une position, non, ce sont des groupes, il faut les soutenir parce que ce sont des combattants anti-impérialistes, mais on les caractérisait comme étant populistes, petits bourgeois, et pas du tout, il ne fallait pas soutenir de manière aveugle. Et donc, du coup, le tiers-mondisme pro-palestinien m'est aussi apparu du même coup, aussi comme redevable d'une telle analyse. Mais surtout, c'était l'idée du mensonge.
Oui, ça, cette sensibilité au vrai et au faux, elle est là très tôt chez vous.
Elle naît du trotskisme.
Vous appelez ça la machine à produire du faux dans Bref séjour à Jérusalem. C'est ce que vous avez retrouvé dans le discours anti-israélien, pro-palestinien, dans le sillage de la deuxième intifada et de l'explosion de discours et d'actes antisémites en France.
Exactement. C'est-à-dire que ce qui était très frappant dans les Libération, dans le Monde ou dans le discours intellectuel de gauche, justement, c'était ce retour du mensonge comme une chose finalement qui posait pas de problème. Je prends un exemple vraiment qui me revient par hasard. Daniel Salnave, hein, aujourd'hui membre de l'Académie française et intellectuel de l'époque, disant par exemple que les Israéliens interdisaient aux Palestiniens d'apprendre les mathématiques, la physique et la chimie, des choses hallucinantes et aberrantes. Et pour moi, ce mensonge-là de Daniel Salnave, mais il y en aurait d'autres. Et c'était les énoncés qui me rappelaient absolument les énoncés staliniens.
Oui, et puis il y avait aussi ces phrases répétées comme des mantras, parce que tout le livre s'ouvre par cette phrase répétée dans tous les médias français à l'époque sur la provocation d'Ariel Sharon, sur l'esplanade des mosquées, qui aurait lancé la deuxième intifada. Et vous avez décortiqué ça très précisément pour dire le faux de la chose.
Tout à fait. Comme sur Sabra et Shatila. On y reviendra peut-être, mais ce qui m'apparaissait quand même étonnant sur Sabra Shatila, c'est que, alors que le conflit, la guerre civile inter-arabe a duré de près de 15 ans, entre 1975 et 1990, ça fait 150 000 morts, a été une monstruosité comme jamais, le seul événement mémorable était un événement qui avait lieu en 82, où les Israéliens n'étaient absolument pas impliqués directement, et même...
Ils ont laissé faire quand même.
Oui, enfin bon. Et par exemple, l'armée libanaise n'a pas non plus intervenu parce que c'était dans un camp quand même très fermé. Qu'ont eu lieu les massacres.
Il y a eu une ultra-focalisation sur Sabra et Shatila.
C'est l'idée qu'au fond, par exemple, Eli Obeika, qui était le chef des milices chrétiennes, qui eux ont tué, égorgé les Palestiniens dans le camp de Sabra en 82. Une fois la guerre civile terminée, il est devenu député du Liban, a été ministre, enfin a été lié au gouvernement, et n'a eu aucun problème. C'est-à-dire que...
Ça n'a posé de problème à personne.
Voilà, alors qu'Israël portait le poids de toute cette guerre, et pour moi, cette guerre sur les épaules comme étant le grand coupable. Et pour moi, ça c'est vraiment... Et évidemment, toute l'intelligentsia française a suivi là-dedans. Et ça, c'est fascinant parce que c'est justement, pour moi, la question de la vérité qui est en jeu.
Oui, la question de la vérité, mais pas seulement. Parce que vous dites aussi que pour vous, c'était un enjeu de liberté, que c'était votre liberté qui était menacée. Voilà. Je n'ai pas bien compris ça.
Ça, c'est important, une idée importante, mais c'est très intuitif. C'est en effet très intuitif et pas forcément communicable. L'idée que j'avais, c'était, au fond, voilà, que à partir de la Grande Intifada, donc à partir des années, dans les années, disons, 2000, la possibilité qu'Israël soit effacé comme idée, comme nom, comme monde, est devenue à peu près acceptable pour tout le monde. Et donc l'idée que le monde, tout d'un coup, efface de sa surface l'entité sioniste, mais l'entité pour moi qui est Israël, est devenue une chose acceptable et que l'oubli devienne à ce moment-là quelque chose, une sorte de d'attitude générale. Alors c'est là précisément où, dans cette disparition acceptée, dans cet effacement, je ressentais l'idée que ma liberté en était la première victime, en quelque sorte, au sens simplement où je devais accepter de vivre dans un monde dans lequel Israël n'aurait plus de place, et où finalement on se débarrasserait, on aurait mis de côté ce qui était pour moi au fond un des éléments moteurs de mon existence, du sens du monde.
Et là, vous avez prononcé une phrase forte à l'instant. Vous avez dit que Israël, on ne parle pas de l'État d'Israël seulement, on parle du nom d'Israël, NOM, est porteur d'un sens du monde.
C'est là où ça devient vraiment une sorte de démarche comment, où l'éthique est essentielle, où l'éthique personnelle est à une dimension, je dirais, existentielle, c'est-à-dire où, au fond, il semble que votre propre existence n'aurait pas de sens si précisément il devait accepter de se priver, par exemple. C'est frappant dans le monde comment beaucoup de gens sont prêts à sacrifier quelque chose au nom, par exemple, d'intérêts politiques ou au nom de la nécessité politique. Prenons le cas du communisme, comment le communisme a poussé les gens finalement à accepter volontiers de fermer les églises, de les brûler éventuellement,
il y a un renoncement.
Voilà, de renoncer. Enfin, c'est tout le système stalinien qui se met en place à ce moment-là, où quelque chose, il faut renoncer à quelque chose de vital pour vous, parce que la politique le veut, ou parce que c'est, au fond, la politique relativise l'importance et le sens de ce qui est essentiel pour vous. Donc, en effet, donc, du coup, le sentiment que j'avais, c'était que pour tous ceux pour qui Jérusalem, au fond, c'est Al-Quds, et que Al-Quds, donc, qui veut dire la sainte en arabe, pourrait tout à fait être un nom qui remplace celui de Jérusalem, pour beaucoup de gens, ce n'est pas très important. Pour moi, c'est une folie. Pour moi, l'idée que le nom de Jérusalem puisse être effacé de la mémoire et remplacé par le nom de Al-Quds, pour moi, c'est quelque chose qui remet en cause, en effet, mon existence.
Sans toutefois rejoindre ce peuple.
Parce
qu'à vous écouter, on se dirait, bon, si on pousse la chose un peu plus loin...
Non, du tout. Non, sans aucun...
Il a qu'à en être.
Non, surtout pas. Non, je ne sais pas du tout. Non, parce que ça serait, pour moi, ça serait vraiment encore le faux. Ça serait encore une forme de falsification. En tout cas, pour moi... Ça sera vraiment factice et je trouve ça très bien qu'au contraire, je pense qu'il y a une facticité juive. Une facticité juive au sens de... Le mot facticité, je l'entends au sens de fait juif, d'événement juif, qui est lié à l'histoire d'un peuple. Je ne suis pas dans ce peuple, malgré cette Madeleine Rothman, cette aïeule, cette trisaïeule de mon enfance.
Et c'est peut-être aussi le langage, parce que ça, c'est quand même quelque chose de très important qu'on n'a pas encore dit jusqu'ici. Vous êtes le disciple de Roland Barthes, vous êtes l'éditeur de ses œuvres complètes. Roland Barthes, le maître du langage, le linguiste, et les Juifs sont quand même, si on parle d'antisémites, c'est parce que les Juifs sont des sémites. Ils sont des sémites parce qu'ils sont des descendants de Shem, le fils de Noé. Et Shem, ça veut dire le nom. Ce sont ceux qui ont cette capacité de nommer les choses. Il y a quand même un lien inextricable entre... judéité, langage. Est-ce que ça va peut-être pas chercher par là aussi votre sensibilité aux faits juifs ?
Oui, sans doute. Mais alors, on peut parler quelques instants de Barthes, mais pas seulement de lui. Ce qui me frappe, c'est que les hommes de sa génération, les gens en tout cas que j'admire, avaient tous une sensibilité inouïe par rapport aux faits juifs. Que ce soit Lacan, Jacques Lacan, on pourrait dire que sa pensée, elle est juive. Dans une certaine partie, l'idée que le monde est fondé sur un ordre symbolique et que nous sommes organisés comme sujets par la parole et par notre rapport à ce qu'il appelle l'ordre symbolique, c'est complètement juif. Complètement juif. Comme René Char, un poète sur lequel j'ai écrit, lui aussi ne cesse de marquer des sortes de clins d'œil, d'allusions, de connivences avec le fait juif. Et quant à Barthes, en effet, lui aussi ne cesse de se donner comme référence le monde juif. Par exemple, lorsqu'il donne comme des définitions de l'écriture et du rapport à l'œuvre, l'exemple de Moïse, qui n'arrive pas à accéder à la terre promise, mais la voix de loin, en quelque sorte. On a donc un regard synthétique, mais sans pouvoir être dedans. C'est donc l'idée que
il est sur le seuil
et c'est pour lui c'est ça l'écriture, c'est cette position de seuil où il y a cette position en quelque sorte de il dit Moïse avait pour Israël le regard de la synthèse, donc celui qui comprend ce qu'est le pays qui lui est promis, mais qu'il ne possède pas.
Et donc, l'écriture, c'est ça ?
C'est ça, l'écriture.
Pourquoi ?
Parce que c'est justement une position, je dirais, d'idéalité maximale. C'est-à-dire, celui qui écrit est une position, je dirais, la position la plus haute de la spéculation. Et sûrement pas dans la possession factuelle des choses.
Tout en conservant toujours un écart par rapport à l'essence des choses.
Exactement.
Il peut jamais, l'écriture, le langage, ne peut jamais complètement épuiser non plus la totalité.
Tout à fait. Et donc, cette référence à Moïse, elle est vraiment complètement obsédante chez Barthes. En tout cas, ce qui est certain, et là, c'est un problème de culture, c'est que cette génération-là, donc des Barthes, des Lacan, des Foucault, dont j'ai parlé, de René Char, enfin tout ça, c'est des gens qui avaient une culture aussi où le monde juif était complètement... omniprésent. Malgré l'antisémitisme de l'époque, au fond, le christianisme, malgré son antisémitisme, a néanmoins véhiculé et transporté avec lui une mémoire juive qui a pu tout à fait être transmise. Il se trouve que j'ai l'impression, là, par rapport aux générations actuelles, que cette transmission, elle est absolument absente et que justement, on parlait de sensibilité aux faits juifs, qu'il y a aussi, de ce point de vue-là, s'il y a une absence de sensibilité aux faits juifs, sinon sous la forme du sionisme, le terme complètement stéréotypé, d'éléments de langage les plus lourds qui soient.
Les plus vides aussi.
Les plus vides qui soient. C'est aussi lié à une non-culture, à une acculturation.
Mais est-ce que la guerre contre les juifs, est-ce que la détestation envers les juifs, c'est pas, si on pousse un peu plus loin, justement, un problème avec le langage lui-même ? Avec le sens. Oui. Est-ce que ce n'est pas une hostilité ?
Au sens. Tout à fait.
Vous en parlez un peu dans un autre texte très important qui est dans votre recueil sur Shoah de Claude Lanzmann. Il y a une étude sur le livre d'Esther.
Oui, c'est ça.
Il y a quelque chose qui va dans ce sens-là.
Tout à fait. C'est à l'occasion d'une émission que Alain Finkielkraut a faite sur France Culture qui m'avait invité sur le livre d'Esther. Et ça m'a été absolument fasciné par ce livre, tant il est... D'abord, il est une beauté littéraire incroyable. C'est vraiment un conte judéo-persan magnifique, parfaitement construit, mais qui est porteur d'un niveau de pensée et d'une actualité absolument bouleversante. Et en effet, la question que pose ce texte, le livre d'Esther, touche en effet au sens de l'existence même du peuple juif. Que Mardoché, celui qui va développer toute une politique pour sauver son peuple, va être le dépositaire, en quelque sorte.
Mais il est une provocation à lui tout seul. Vous dites qu'il est... Oui. La métonymie du peuple juif qui est, vous tentez une sorte de définition de qu'est-ce que c'est être juif, parce que Mordechai, c'est le premier à être appelé juif dans toute la Bible, et vous dites, les juifs sont une provocation en tant que telle.
Voilà, c'est ça quand je suis arrivé à un moment de la lecture de ce texte, c'est, puisqu'il y a donc plusieurs protagonistes, il y a notamment Haman, qui est une sorte de figure, je dirais, ontologique de l'antisémite, dont l'antisémitisme d'ailleurs est un antisémitisme qui lui est légué par héritage, par une sorte de généalogie dont il est porteur sans le vouloir, mais il est habité par cette angoisse à l'égard du peuple juif et à l'égard de ce qu'est être juif. Notamment, ça apparaît puisque Mardoché est présent, en quelque sorte, assis devant le palais d'Assuérus. Et chaque fois qu'Aman passe, il voit cette espèce de présence obstinée et ineffaçable d'un être pourtant tout à fait apparemment misérable, qui n'a rien pour l'effrayer, qui n'a rien pour l'humilier.
Et qui ne fait littéralement rien, puisqu'il est immobile.
Il est immobile, il est là. simplement.
Et ça, c'est déjà trop.
Exactement, c'est toujours parce que, voilà. Et ce qui m'apparaît, c'est que cette présence-là gâche, empêche la jouissance d'Aman.
C'est-à-dire ?
Voilà, c'est-à-dire qu'il est, puisque Esther, il va y avoir des fêtes qui vont être organisées en vue des célébrations, des liens entre Assuérus et Esther, où Aman va être invité, et bien cette invitation ne le réjouit même pas, n'arrive pas à lui donner du plaisir, alors que pourtant c'était sa grande ambition, à cause de la présence de ce petit tas humain qui, à la porte du palais, lui rappelle précisément une présence qui est, je dirais, qui ne parvient pas à accepter comme telle.
Quelque chose qui est une exception à l'ordre naturel du monde.
Voilà. C'est, on pourrait dire ça. On pourrait dire qu'à ce moment-là, être juif, c'est cette espèce d'embûche qui est comme une forme de cicatrice ou d'élément qui vient perturber l'ordre naturel des choses. Et quand la fête de Pourim est décidée, donc que le carnaval va avoir lieu chaque année au même moment pour fêter la non-extermination du peuple, ce carnaval, contrairement à ce qui se passe chez les païens, pour qui le carnaval est lié au cycle naturel du retour des saisons, dans le peuple juif, Pourim, le carnaval n'est pas lié à un cycle naturel. Mmh. Il est lié à un événement historique et de mémoire qui vient donc, en quelque sorte, soulager et donner au peuple juif ce moment de jubilation, de la non-extermination. Et ce qui est quand même...
C'est une drôle de jubilation, ça.
Drôle de jubilation, absolument.
On se réjouit de ne pas être mort.
Voilà. Mais qui est en même temps donne lieu à une folie physique, un enivrement total.
À l'ivresse, et à
une sorte de gesticulation physique, de danse et tout à fait incroyable, et qui contraste avec l'idée qu'on a du peuple juif comme un peuple tout en noir, triste, tout ça, austère. Et il y a là quelque chose de tout à fait fabuleux, et je trouve ça extraordinaire. Extraordinaire qu'un écrivain, celui qui a écrit le livre d'Esther, d'abord ait conçu ce conte, qui est un conte extraordinaire dans son fonctionnement, mais dans l'issue, dans l'épilogue, et à ce point profond dans sa dimension, je dirais, métaphysique, de donner, au fond, l'idée de l'extermination sous la forme de son empêchement. C'est-à-dire que, au fond, voilà, ce qui est raconté, c'est le concept même de génocide, en tant qu'il est toujours possible, parce qu'il n'a pas eu lieu. Et il y a là une vision d'une modernité, enfin, le mot modernité est idiot, parce qu'en fait, la Bible est beaucoup plus moderne
que
la modernité elle-même. Non, mais en tout cas, qui est une sorte de quelque chose qui nous parle beaucoup aujourd'hui, mais... Au-delà de ça, ce qui me paraît quand même fascinant, c'est la question essentielle de l'extermination. C'est-à-dire que, au fond, peut-être pourquoi, là, si je vais aller jusqu'au bout de ma pensée, pourquoi, au fond, je suis tellement sensible aux faits juifs, pourquoi j'étais ému par la... tellement ému par les 7 octobre, tellement sensible... aux victimes juives, c'est pas parce qu'elles sont des victimes, au fond elles sont des victimes comme il y en a tant sur Terre, aussi bien victimes du cancer, de n'importe quoi, c'est pas la question, c'est qu'elles sont victimes d'un projet,
d'un projet métaphysique
qui est donc l'extermination, l'anéantissement. C'est-à-dire que ce qui me trouble et ce qui est pour moi était un élément vraiment moteur dans mon traumatisme de la seconde intifada, qui m'a poussé à dire à ma fille Anna, ne bouge pas, il faut le créer pour Israël, c'était précisément la sensation que ça recommençait, qu'il y avait en tout cas dans la seconde intifada et dans le concert de louanges qui était partout dans le monde lancé en faveur des Palestiniens, quelque chose comme l'accueil, pas innocent, mais en tout cas un accueil involontaire, mais un accueil tout de même, un projet d'extermination, tout comme le 7 octobre, je l'ai vu.
Le déluge d'Al-Aqsa, ça dit bien.
Absolument.
L'extermination.
Tout à fait. dire avec ça, j'ai vu dans le 7 octobre quelque chose comme une répétition générale d'un génocide à venir.
Pour comprendre ça, peut-être qu'il faut faire un détour par une autre personne, oui, puisqu'on parle de génocide, une autre figure qui a compté énormément pour vous dans votre cheminement à côté des Juifs, c'est Claude Lanzmann.
Voilà.
Alors, comment ça a commencé votre amitié avec Lanzmann ?
Claude Lanzmann, c'est... Lanzmann m'a téléphoné après avoir lu ce texte et m'a dit, voilà, il faut absolument que je vous rencontre, voilà, venez chez moi, il faut qu'on parle. Et à ce moment-là, en effet, est née une amitié absolument incroyable, d'une grande puissance émotionnelle aussi. C'est-à-dire quelque chose de très profond, de, presque corporel, comme ça, d'amitié avec lui.
C'est un homme qui avait une présence corporelle, voilà, impressionnante, par ailleurs.
Tout à fait. Voilà,
massive.
Massive, tout à fait, une sorte de force incroyable et en même temps d'hypersensibilité, d'émotion émotive.
C'était compliqué d'être ami avec Claude Lanzmann.
Très. D'abord, c'était compliqué, oui. C'était compliqué parce qu'il pouvait être... oui, non. Enfin, moi, j'ai vécu ça sur un mode tout à fait... On se voyait beaucoup, de l'incroyable complicité. Notre amitié était... pas forcément, n'était pas sous la tutelle de Shoah. C'était une amitié qui était aussi une amitié de rigolade. Qu'est-ce que c'était, quelqu'un qui était très vivant. Enfin, c'était un vivant, Lanzmann. C'était quelqu'un qui avait une puissance vitale tout à fait inouïe. D'ailleurs, puissance vitale sans laquelle il n'aurait pas pu faire Shoah. Il avait une puissance physique tout à fait impressionnante. Et donc notre amitié, elle était faite de aussi beaucoup de rigolades, de d'ivresse, de repas, de complicité, je dirais, profane, complètement profane, et de vie quotidienne.
Le fait que vous ne soyez pas juif, peut-être que ça jouait,
oui,
aussi.
Peut-être.
Ça le soulageait peut-être, je
ne
sais pas.
Oui, absolument. Ben,
ou le décrisper.
Lanzmann avait un rapport compliqué par rapport au monde juif.
Oui.
Il était parfois agacé par, mmh, par la judéité en tant que tel. Et donc, il pouvait tout à fait, en effet, avoir ce que vous dites. Cette idée qu'au fond, c'est peut-être qu'il vivait aussi la judité sur un mode un peu de pesanteur, parfois, je ne sais pas. Mmh. En tout cas, il était très peu respectueux, je dirais, des impératifs et des normes juives. Mmh. Mmh. En tout cas, c'est en effet, j'avais vu Shoah, bien sûr, avant de le rencontrer, donc j'avais été très, très, très impressionné. Et le fait de le connaître a aussi, évidemment, ajouté encore à cette impression. Et en effet, voilà, c'est ça qui me... On arrive à la question qui était derrière votre propos, c'est-à-dire que, voilà, l'extermination. C'est au fond, Lanzmann est obsédé, quand il fait Shoah, par... les chambres à gaz. Il dit, je ne voulais pas faire un film sur le camp de concentration, sur la vie dans les camps, ce qu'il appelle la routine des camps. Ce qui l'obsède, c'est la mort, dans sa forme la plus dense, la plus intense, la plus destructrice, et la plus proche de ce rapport au néant que Shoah donc, veut représenter, les chambres à gaz. Et je pense qu'il a raison de ne pas avoir dilué Shoah dans une sorte de portrait général de la vie quotidienne dans les camps, etc. Non, il a tout est concentré sur le projet de mort.
La mise à mort.
La mise à mort et le projet exterminateur.
Et par définition, cette chose qu'on ne peut pas montrer, en fait.
Absolument. Et donc, il me semble que ce que j'ai pu écrire sur Israël... est habité en effet par une sensibilité assez proche de celle de Lanzmann, c'est-à-dire l'idée qu'au fond le peuple juif est porteur de quelque chose de tout à fait essentiel à ce qu'est l'humanité, à savoir la possibilité même d'être anéanti, ce qu'aucun autre peuple au fond et même aucune personne ne peut être porteur. Le destin historique d'Israël, et ce qui est fascinant dans le livre d'Esther, c'est que le livre d'Esther comprend cela et en fait un récit. Mmh. Le destin d'Israël, c'est d'être en effet avoir comme une sorte d'ombre, d'être porteur d'une ombre, qui est l'ombre de la Shoah, qui est l'ombre de l'anéantissement, du génocide, et que cette ombre est une ombre qui, sans le définir entièrement, parce qu'Israël, heureusement, a d'autres potentialités, d'autres dimensions existentielles que la mort, mais néanmoins, il y a une limite, je pense, à l'existence juive, c'est cette idée que de la menace, la menace de la mort.
C'est peut-être un mystère qui s'élucide, là, c'est-à-dire que le caractère increvable des Juifs tient à leur hyperconscience de leur potentielle disparition.
Tout à fait, tout à fait, et le caractère increvable est aussi ce qui, évidemment, me trouble et me réjouit beaucoup. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement par angoisse, c'est pas seulement dans un rapport d'angoisse à la guerre de la mort que le peuple juif m'apparaît comme un peuple particulier.
Il y a une joie aussi.
Exactement. Il y a une joie et puis à l'idée d'une histoire absolument inouïe. C'est-à-dire que pour moi, au fond, peut-être le seul peuple qui mérite d'avoir le nom de peuple, c'est le peuple juif, me semble-t-il. C'est parce que c'est le seul qui, au fond, a cette histoire millénaire portée par une unicité, une rectitude et surtout un message. Et un message qui est porté par un livre. Et ça aussi, évidemment, ça rejoint quelque chose de très important pour moi. C'est l'idée d'un peuple qu'on pourrait appeler, d'un mot un peu prétentieux, un peuple textocentrique, c'est-à-dire dont le centre de l'existence est un texte, qui est la Bible, et qui le définit depuis son origine jusqu'à aujourd'hui. Et en ce sens, oui. Donc, ce n'est pas seulement un peuple qui a une ombre derrière lui, qui est l'ombre de la menace. C'est aussi un peuple qui a en lui une intensité d'existence qu'aucun autre peuple ne peut. Même un peuple, je ne sais pas, le peuple chinois est un peuple très vieux, qui est une civilisation ancienne, mais c'est un peuple qui manque précisément peut-être le livre.
Mais alors, si je peux me permettre, pour conclure un peu cet entretien, sauf votre respect, moi je vous trouve un peu filou, parce que tout à l'heure je vous ai demandé si l'idée de rejoindre ce peuple vous avait traversé l'esprit, vous avez dit non, pas du tout, c'est artificiel. Cela dit, la dernière phrase du texte, bref, séjour à Jérusalem, ça se finit par « Ton Dieu sera mon Dieu », qui est une citation du livre de Ruth, qui est l'archétype de la convertie au judaïsme. Vous avez fini par ce texte, par cette citation.
Oui, alors en fait, c'est aussi que quand je suis allé à Jérusalem, c'était l'invitation de Benny Lévy, qui avait déplacé l'Institut d'études lévinassiennes de Paris à Jérusalem, et qui m'a invité pour faire un séminaire sur Pascal. Et cette citation de Ruth, « Ton Dieu sera mon Dieu », précisément, est reprise par Pascal dans le mémorial. C'est un texte qu'il écrit une nuit, je ne saurais pas dire laquelle, une nuit d'extase mystique, où il écrit son adhésion, enfin son adhésion à Dieu. Il dit, non pas le Dieu des philosophes et des savants, mais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et il ajoute, ton Dieu sera mon Dieu, extrait du livre de Ruth.
Vous la faites vôtre, alors.
Je la fais mienne, effectivement, mais Pascal ne s'est pas converti au judaïsme.
Certes. En revanche, vous avez, dans le coin de votre salon, où on se trouve actuellement, on est à quelques jours de la fête de Noël, il y a quand même un sapin et une crèche.
Oui. Alors, et au-dessus, il y a une menorah d'or qui avait été offerte par le Nybritz à la suite de mes livres.
Donc ça voulait faire du syncrétisme. Le Dieu d'Israël, il plane quand même un petit peu dans cette maison.
À côté de la crèche, à côté de la menorah. Puis le sapin, le paganisme, le christianisme et le judaïsme manquerait l'islam. Mais on ne peut pas tout avoir.
Merci, Éric Martin.
Très heureux d'avoir parlé avec vous.
Presque juif, une production Academ. Conception et présentation. Ruben O'Neillman, prise de son et montage, Isaac Payon.